La conception de l'Europe des États, la seule organisation européenne possible et souhaitable, Georges Pompidou la développait longuement au cours d'une conférence de presse le 21 janvier 1971.
À la fin de la dernière guerre, l'Europe était dévastée et devant cette accumulation de ruines, certains ont imaginé que l'Europe pourrait s'organiser autour d'un certain nombre d'organismes techniques, de commissions, qui seraient en quelque sorte la préfiguration d'une fédération européenne. Mais l'existence internationale, qu'elle soit fédérale ou non, doit être politique. Or, dans cette affaire, il n'y avait pas de pouvoir politique. Et pour une bonne raison, c'est que le pouvoir était ailleurs. Il était à Washington. Et il n'y avait pas lieu de s'en étonner, puisque les États-Unis assuraient seuls la défense de l'Europe et prenaient en charge sa reconstruction économique par le plan Marshall. De sorte que cette Europe était tout sauf européenne. Les temps sont changés. Les nations européennes ont refait leurs économies et leurs monnaies. Elles ont repris conscience de leurs identités, de leurs intérêts, de leurs aspirations. Ce fut le cas de la France, sous l'impulsion du général de Gaulle. Mais elle n'a pas été la seule. Qui peut nier que l'Allemagne d'aujourd'hui est une politique allemande? Qui ne pense, et d'ailleurs n'espère, que la Grande-Bretagne, à son tour, cherche une voie qui lui soit propre dans la politique internationale? Est-ce une raison de renoncer au rêve européen? Absolument pas. Et c'est parce que je crois que construire l'Europe est possible et nécessaire que j'ai pris l'initiative de la conférence de La Haye. Mais quelle Europe? Poser la question, à mes yeux, je l'avoue, c'est la résoudre. Il ne peut s'agir que de construire, à partir de ce qui existe, une confédération d'États décidés à harmoniser leur politique et à intégrer leurs économies. Et si l'on le prend ainsi, on s'aperçoit que la querelle de la supranationalité est une fausse querelle. Le gouvernement de l'Europe ne peut sortir que de la réunion des gouvernements nationaux, se mettant ensemble pour prendre des décisions valables pour tous. Et tout d'abord, comment est-ce que le Conseil des ministres peut-il prendre ses décisions ? Eh bien, je demande à chacun, et en particulier à nos partenaires, de regarder comment fonctionnent des gouvernements de coalition. Quand une question se pose, et si tout le monde est du même avis, tout va bien. Sinon, il y a majorité et minorité. Dans ce cas, ou bien la minorité estime que la question n'est pas vitale et elle s'incline, ou elle pense le contraire et elle rompt la coalition. Il est bien évident que dans notre construction européenne, on ne peut pas rompre, sans quoi tout s'écroule. Et j'en déduis que les décisions importantes ne peuvent être prises que d'un accord unanime et qu'il s'agit là d'une évidence politique bien plus que d'une règle juridique. Et que si on veut la méconnaître, on détruira tout. Dernière question qui me vient à l'esprit, c'est celle de l'Assemblée parlementaire. Il me paraît évident que le jour où il y aura un véritable gouvernement européen, il faudra qu'il y ait un véritable Parlement européen. Ça posera d'ailleurs de nombreuses questions, ne serait-ce qu'à cause des opinions et des habitudes différentes qui existent dans les différents pays de la communauté quant au rapport entre gouvernement et Parlement. Mais en attendant, les spéculations sur l'Assemblée parlementaire européenne me paraissent complètement inutiles. On ne peut imaginer d'accroître considérablement ses pouvoirs que lorsqu'il y aura l'apparition d'un véritable pouvoir exécutif en face d'elle. Et quant à la désignation de ses membres, ils sont à l'heure actuelle les représentants des différentes nations, désignés en nombre forfaitaire d'ailleurs, et par la même arbitraire. Et chacun peut bien, sous réserve du respect du traité de Rome, les faire désigner comme il l'entend. Cela ne peut rien changer, ni à la nature de leur mandat, ni à l'étendue de leur pouvoir, ou à ses limites, à leurs limites. Voyez-vous, on parle beaucoup de l'esprit de La Haye. Ayant été à l'origine de cette conférence, j'ai le droit d'avoir mon opinion autant que personne. L'esprit de La Haye, pour moi, c'est à la fois une volonté et une méthode. Volonté d'élargir et d'approfondir la communauté. Cette volonté, la France l'a, et je m'en porte garant. Méthode, il s'agit de progresser dans les faits et non dans les phrases, et de prouver le mouvement en marchant. Et de ce point de vue, s'agissant de l'union économique et monétaire, l'esprit de La Haye, ça consiste à s'engager résolument dans la première étape, plutôt que d'échanger des discours théoriques sur ce qui se passera, peut-être, et si tout va bien, à partir de 1980.
Aujourd'hui, à nouveau, certains proposent l'Europe miracle, l'Europe technocratique, l'Europe des abandons et des renoncements. Pour faire prendre conscience aux Français de ces dangers, Jacques Chirac, de l'hôpital où il est hospitalisé après un accident, leur lance un appel. Le 6 décembre 1978, c'était l'appel de Cochin. Il est des heures graves dans l'histoire d'un peuple où sa sauvegarde tient toute dans sa capacité de discerner les menaces qu'on lui cache. L'Europe que nous attendions et désirions, dans laquelle pourrait s'épanouir une France digne et forte, cette Europe, nous savons depuis hier, qu'on ne veut pas la faire. Tout nous conduit à penser que derrière le masque des mots et le jargon des technocrates, on prépare l'inféodation de la France, on consent à l'idée de son abaissement. En ce qui nous concerne, nous devons dire non. En clair, de quoi s'agit-il? Les faits sont simples, même si certains ont cru gagner à les obscurcir. L'élection prochaine de l'Assemblée européenne au suffrage universel direct ne saurait intervenir sans que le peuple français soit exactement éclairé sur la portée de son vote. Elle constituera un piège si les électeurs sont induits à croire qu'ils vont simplement entériner quelques principes généraux, d'ailleurs à peu près incontestés quant à la nécessité de l'organisation européenne, alors que les suffrages ainsi captés vont servir à légitimer tout ensemble les débordements futurs et les carences actuelles au préjudice des intérêts nationaux. Le gouvernement français soutient que les attributions de l'Assemblée resteront fixées par le traité de Rome et ne seront pas modifiées en conséquence du nouveau mode d'élection. Mais la plupart de nos partenaires énoncent l'opinion opposée, presque comme allant de soi. Et aucune assurance n'a été obtenue à l'encontre de l'offensive ainsi annoncée tranquillement par avance. Telle est bien la menace dont l'opinion publique doit être consciente. Cette menace n'est pas lointaine et théorique. Elle est ouverte, certaine et proche. Comment nos gouvernements pourront-ils y résister demain alors qu'ils n'ont pas été capables de la faire écarter dans les déclarations d'intention? L'approbation de la politique européenne du gouvernement supposerait que celle-ci fût clairement affirmée à l'égard des errements actuels de la communauté économique européenne. Il est de fait que cette communauté, en dehors d'une politique agricole commune d'ailleurs menacée, tend à n'être aujourd'hui guère plus qu'une zone de libre-échange favorable peut-être aux intérêts étrangers les plus puissants, mais qui voue au démantèlement des pans entiers de notre industrie, laissée sans protection contre les concurrences inégales, sauvages, ou qui se gardent de nous accorder la réciprocité. On ne saurait demander aux Français de souscrire ainsi à leur asservissement économique, au marasme et au chômage. Dans la mesure où la politique économique propre au gouvernement français contribue pour sa part au même résultat, on ne saurait davantage y obtenir l'approbation sous le couvert d'un vote relatif à l'Europe. La politique européenne du gouvernement ne peut en aucun cas dispenser la France d'une politique étrangère qui lui soit propre. L'Europe ne peut servir à camoufler l'effacement d'une France qui n'aurait plus sur le plan mondial ni autorité, ni idée, ni message, ni visage. Nous récusons une politique étrangère qui cesse de répondre à la vocation d'une grande puissance, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et investi de ce fait de responsabilités particulières dans l'ordre international. C'est pourquoi nous disons non. Non à la politique de supranationalité, non à l'asservissement économique, non à l'effacement international de la France. Favorable à l'organisation européenne, oui, nous le sommes pleinement. Nous voulons, autant que d'autres, que se fasse l'Europe. Mais une Europe européenne, où la France conduise son destin de grande nation. Nous disons non à une France vassale dans un empire de marchands. Non à une France qui démissionne aujourd'hui pour s'effacer demain. Puisqu'il s'agit de la France, de son indépendance et de son avenir, puisqu'il s'agit de l'Europe, de sa cohésion et de sa volonté, nous ne transigerons pas. Nous lutterons de toutes nos forces pour qu'après tant de sacrifices, tant d'épreuves et tant d'exemples, notre génération ne signe pas dans l'ignorance le déclin de la patrie. Comme toujours, quand il s'agit de l'abaissement de la France, le parti de l'étranger est à l'œuvre, avec sa voix paisible et rassurante. Français, ne l'écoutez pas. C'est l'engourdissement qui précède la paix de la mort. Mais comme toujours, quand il s'agit de l'honneur de la France, partout, des hommes vont se lever pour combattre les partisans du renoncement et les auxiliaires de la décadence, avec gravité et résolution. Je vous appelle dans un grand rassemblement de l'espérance à un nouveau combat, celui pour la France de toujours, dans l'Europe de demain. Et Jacques Chirac précise quelques semaines plus tard:
on voit que la politique européenne ne nous protège en rien contre les maux qui sont ceux dont souffre en réalité notre société dans l'effort d'adaptation qu'elle fait actuellement, et qui sont la technocratie, le chômage, la violence. Mais qu'au contraire, la politique que nous menons risque d'accentuer ces maux en accélérant le phénomène de déracinement dont je parlais tout à l'heure et qui, hélas, caractérise notre temps. C'est pourquoi, pour ma part, je dis oui à la voie exigeante qui conduit à l'Europe de l'indépendance et de la liberté, et non à la voie de la facilité et du compromis qui mène à l'eurocratie, à l'eurochômage, voire à l'euroviolence.
Une volonté, une ambition pour la France. Autour de cette foi, les gaullistes ont toujours rassemblé les Français, au-delà des partis et des chapelles. Comme se sont rassemblés, au plus noir de notre histoire, autour du général de Gaulle, tous les Français de tous les horizons politiques, de tous les âges, de toutes les régions, de toutes les classes sociales, qui repoussaient l'asservissement de la France, ceux à qui s'adressait le 14 juillet 1940 le chef de la France libre.
Ce soir, veille du 14 juillet, il n'est pas une pensée française qui ne soit pour la France seule. Non pas, bien entendu, que nous devions nous tenir plongés dans l'affliction, ni nous ensevelir dans la résignation. Cet excès de douleur et cet abandon seraient le jeu de nos ennemis. Le slogan d'une France pécheresse, justement punie de ses fautes et qui court à l'expiation, voilà qui convient tout à fait à nos vainqueurs du moment. Voilà qui répond trop bien aux remords ou aux intérêts de ceux qui ont capitulé. Eh bien, puisque ceux qui avaient le devoir de manier l'épée de la France l'ont laissé tomber brisée, moi, j'ai ramassé le tronçon du glaive. Je suis en mesure d'annoncer qu'il existe déjà sous mes ordres une force militaire appréciable, capable de combattre à tout instant, sur terre, dans les airs et sur mer. J'ajoute que cette force augmente tous les jours, et je veux que l'on sache de quelle magnifique qualité est la jeunesse française qui a cours si engagée. Il n'y a pas à douter une seconde que cette force ira croissant au fur et à mesure de la guerre. Français, sachez-le, vous avez encore une armée de combat. Si donc le 14 juillet 1940 est un jour de deuil pour la patrie, ce doit être en même temps une journée de sourde espérance. Oui, la victoire sera remportée. Et elle le sera, j'en réponds, avec le concours des armes de la France.
À ceux encore qui le rejoignaient lors de la création du Rassemblement du peuple français contre le régime des partis, impuissant à conduire la France dans la dure période de la guerre froide. Strasbourg, en avril 1947.
La République que nous avons rêvée, tandis que nous luttions pour elle, la République dont il faut qu'elle se confonde maintenant avec notre rénovation, la République sera l'efficience, la liberté et la concorde, ou bien elle ne sera rien que désillusion. Et la puissance, en attendant, doit de disparaître de noyautage en noyautage sous une certaine dictature. Soit de perdre dans l'anarchie jusqu'à l'indépendance du pays. Il est temps que les Français et les Françaises qui pensent et qui sentent ainsi, c'est-à-dire j'en suis sûr, l'immense masse de notre peuple s'assemble pour le prouver. Il est temps que se forme et que s'organise le Rassemblement du peuple français.
Rassemblement, maître mot du gaullisme. Alors que le RPF s'éteint victime des manœuvres et des calomnies, le général de Gaulle en rappelle le 11 juillet 1954 la nécessité et l'originalité.
Le Rassemblement reste donc la nécessité. Il faut qu'il soit représenté, il faut qu'il soit préconisé, il faut qu'il ait un centre. C'est moi et vous avec moi. À quoi cela nous engage-t-il actuellement? Cela nous engage actuellement, même si ça diminue nos effectifs, ce qui n'a pas une énorme importance, parce que les effectifs, ça va et ça vient dans l'histoire, mais ce qui est capital, c'est que ceux qui croient avec moi qu'il doit en être ainsi, ne se démentent pas eux-mêmes. Autrement dit, que notre rassemblement, qui n'est plus le rassemblement du peuple français, alors qu'il est évident, qui n'en est que l'avant-garde, qui n'en est que l'apôtre, qui n'en est que le signe précurseur, eh bien, notre rassemblement ne peut pas entrer dans le jeu électoral, dans le jeu politique, dans le jeu ministériel de tous les jours. C'est une chose qu'il n'a pas le droit de faire et que c'est sur quoi j'insiste pour qu'on ne le fasse pas, nulle part. Même, on n'a pas le droit de dire que le rassemblement joue un rôle dans les combinaisons. Naturellement, les adversaires, ceux qui sont pour la dispersion, c'est-à-dire les hommes des partis, c'est-à-dire les hommes du régime, c'est-à-dire les journaux du régime, c'est-à-dire la radio du régime, c'est-à-dire l'agence du régime, ceux-là s'efforcent toujours de faire croire, de croire eux-mêmes, de faire croire, de donner à croire que nous sommes engagés dans la combinaison. Ils n'en ont pas d'autres, ils n'ont pas d'autres soucis. C'est comme ça que vous voyez tous les fauvets, tous les robinaires, enfin tous les adversaires, tous les hommes du régime, tous ceux que j'ai appelés les stylographes de la décadence, n'est-ce pas, qui sont ceux de la dispersion. Ben, vous les voyez s'acharner à dire que le RPF est dans le coup, que les ministres RPF, que le général de Gaulle, etc. Ils s'y efforcent par définition. Car comme ils combattent l'idée même du rassemblement, comme c'est contraire à leur nature, à leur désir, à leur instinct, Eh bien, ils vous incarnez pas. Et par conséquent, ils s'acharnent à se démontrer à eux-mêmes et à démontrer aux autres qu'il n'y en a pas. Et que le rassemblement n'est qu'un parti comme les autres.
La recherche permanente d'un accord avec le peuple français, retrouverons-les 15 ans plus tard, le 25 avril 1969, à deux jours du référendum qui marquera son départ.
Votre réponse va engager le destin de la France parce que si je suis désavoué par une majorité d'entre vous, solennellement sur ce sujet capital, et quel que puisse être le nombre, l'ardeur de l'armée de ceux qui me soutiennent et qui de toute façon détiennent l'avenir de la patrie, ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible. Et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions.
Cette armée, Jacques Chirac entreprend de la rassembler à nouveau à Égletons le 4 octobre 1976 pour combattre le péril que le programme commun fait courir à la France et que personne ne songe sérieusement à conjurer.
Je m'adresse à tous les Français, sans exclusive aucune, pour que se constitue le vaste rassemblement populaire que la France a toujours su tirer de ses profondeurs lorsque le destin paraît hésiter. Par vous, autour de vous, au-delà de vous, nous allons essayer de créer le rassemblement de toutes celles et de tous ceux qui cherchent avec obstination à se faire entendre, à travailler, à préserver leur liberté de choix et d'expression, et qui aspire à plus de justice, à plus de bonheur, sans pour autant renier les principes auxquels ils sont attachés. Cela suppose de notre part de la patience, de la ténacité, de la grandeur. Mais au général de Gaulle et Georges Pompidou nous ont habitués à fréquenter les rudes sentiers qui oblige les Français à se surpasser pour être eux-mêmes dans la victoire.
Le Rassemblement pour la République est créé le 5 décembre 1976, porte de Versailles à Paris. Devant 50 000 militants, Jacques Chirac lance contre le collectivisme la campagne active et déterminée qu'il ne cessera que le 19 mars 1978 avec la victoire.
Amis et compagnons, nous devons tous nous sentir mobilisés au service de la démocratie, au service de la République. Nous devons chaque jour accroître les rangs de ceux qui combattent avec nous. Au-delà de ce jour, par-delà cette enceinte, c'est vers tous les Français que je me tourne, vers tous ceux qui pressentent que notre société est en péril, mais qui n'ose encore élever la voix pour la défendre, vers tous ceux qui ont les yeux ouverts, mais dont les lèvres restent encore closes. Vous qui êtes intransigeants sur l'indépendance de la nation, vous que l'esprit de justice exalte, et que l'injustice révolte. Vous qui ne tolérez ni l'amertume, ni le mépris, ni l'humiliation. Vous qui connaissez le prix de l'effort, de la droiture, de la rigueur. Vous qui savez que la responsabilité, autant que le savoir, fonde la dignité de l'homme. Vous qui voulez être des hommes, mais des hommes solidaires. Vous qui sentez, qui pressentez que notre cause, c'est celle de la liberté. À vous tous, je dis, n'attendez pas. N'attendez pas pour défendre les droits civiques durement conquis et affermis par la République. Ils ne sont ni un don de la nature, ni un privilège du destin. N'attendez pas pour servir une ambition nationale, généreuse et humaine. Rejoignez-nous. Notre peuple, dont c'est la grandeur d'être rebelle à la contrainte, a quelquefois besoin qu'on l'exhorte. Alors il se rappelle son passé et il étonne le monde. Le voici soudain réconcilié avec lui-même, réuni dans le même combat, consacrant toutes ses forces à défendre sa culture et sa société. Le voici rassemblé. Citoyens et citoyennes de mon pays, vous êtes les fils et les filles de ces hommes qui ont lutté dans notre longue histoire pour nous donner le droit d'être libres. L'appel que je lance à mon tour n'est que l'écho de l'éternel appel des nations qui ne veulent pas mourir. C'est au peuple de France que je m'adresse, peuple qui sait comprendre, peuple qui sait donner, peuple qui sait dire non à ce qui l'avilit, peuple une fois encore debout et rassemblé.